France Inter, le 7-9, intervenez.
Vous intervenez au 01 45 24 7000 et Jean-Claude nous appelle de la Drôme. Bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Voilà, merci de prendre ma question. Alors j'aurais voulu poser une question à vos invités pour manifester trois préoccupations qui me semblaient pas complètement présentes. La première, eh bien, c'est que ce type d'institution, Musée des Arts Premiers, c'est un peu comme toujours le fait du prince, donc chaque prince a sa pyramide. Voilà, donc Mitterrand c'était la télé grande bibliothèque, et Hollande ce sera quoi? Donc Chirac c'est le Musée des Arts Premiers. La deuxième, c'était sur le fait, là spécifiquement du Musée des Arts Premiers, que certains peuples réclament la restitution d'objets qu'ils estiment ne pas devoir être exposés comme ça au public. Je crois que c'est les Indiens d'Amérique. Et la troisième, eh bien, c'est sur le mode de diffusion de la culture que ça perpétue, c'est-à-dire tout est à Paris, donc est-ce que chaque jeune Français ou chaque Français va avoir un billet de train ou de car Macron pour aller au moins une fois par an, n'est-ce pas, que les gueux puissent enfin aller visiter ce que, dont la capitale profite tous les jours, voilà.
Merci Jean-Claude, nos invités vont essayer de vous répondre. Alors, qui veut commencer par quelle question?
Stéphane Martin. Je vais commencer par la fin pour rappeler que les musées, pas seulement le Quai Branly d'ailleurs, parce que le Louvre, le musée d'Orsay, Versailles, tout le monde fait ça, se considèrent comme des institutions nationales, donc au service de l'ensemble du territoire. Et donc on fait des choses dans l'ensemble du pays. Nous on a par exemple un partenariat avec la ville du Mans, on a travaillé en Ardèche où on a fait plusieurs expositions. On travaille surtout beaucoup avec la banlieue parisienne, on a des programmes de musées hors les murs. Donc les musées ne sont pas du tout réservés aux Parisiens. Et d'ailleurs dans les visiteurs du Quai Branly, les Parisiens intramuros représentent 30% de nos visiteurs. Je peux dire aussi un mot sur la question des restitutions.
Oui, un mot aussi sur la provenance des objets qui seront exposés à partir de demain au grand public et ce soir dans l'inauguration, puisque j'ai vu qu'il y avait pas mal d'objets qui venaient de musées de région ou de province, je sais pas comment on doit dire. Le musée des Beaux-Arts de Marseille, le musée Labi à Toulouse ont prêté des objets, donc voilà, il y a un échange entre Paris et les régions.
On a à peu près 7000 objets qui sont en dépôt permanent en région, et de toute façon, dans les expositions temporaire. Le principe est un système d'échange, donc on emprunte, on prête tous les ans des milliers d'objets à des musées français et étrangers, on en emprunte aussi pour les expositions temporaires. Et enfin, les restitutions, et bien c'est un dialogue permanent. Il y a effectivement de temps en temps des demandes en France, c'est très rare, parce que la composition de nos collections nous a exposé à relativement peu de problèmes, et ça s'est passé par exemple pour les fameuses têtes maoris que la France a rendues à la Nouvelle-Zélande.
Catherine Clément. Pardon. Oui, pardon.
Je voudrais quand même dire que le monsieur quand même a pas tort. Moi, j'ai souvent entendu mon père. Il faut quand même que je le dise un peu sur ce thème-là, c'est-à-dire au fond, tout est toujours à Paris. Donc, bien sûr, il y a des échanges, bien sûr, il y a des expositions itinérantes, mais enfin, il y a quand même quelque chose d'assez juste. Mais je voudrais rappeler que c'est profondément pour cette raison qu'il avait pris à l'époque deux décisions qui n'ont pas forcément été très faciles dans le choix des villes, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a quand même le Centre Pompidou à Metz et le Louvre, hein, bien entendu, à Lens. C'est peut-être pas autant que ce que ce monsieur aurait souhaité, mais c'est une direction. Mais je pense que sur le fond, c'est une bonne direction.
Mais ce sont deux grands succès, effectivement, d'affluence culturelle et d'implantation culturelle en région. Catherine Clément, vous souhaitiez intervenir sur les restitutions.
Sur les restitutions, parce que les Maoris, pour remporter les têtes à leurs origines, et ensuite retrouver la tribu à laquelle ils appartenaient, on fait une magnifique cérémonie, d'abord à Rouen, d'abord, et ensuite au musée. C'était des chants magnifiques, et donc c'est quelque chose qui se partage. Ils sont pas venus, ils ont pas mis les têtes dans des valises, et hop, ils sont partis. Non, ça a été fait de façon cérémonielle, et je trouve ça très bien.
Bon, il y a d'autres exemples de demandes de restitution à votre connaissance?
Il n'y a pas seulement des demandes de restitution, il y a des demandes de comportement vis-à-vis des objets. Par exemple, il y a des objets que nous ne montrons pas en permanence au public, à la demande par exemple des aborigènes australiens. Il y a des objets qui sont souvent présentés en liaison avec les pays d'origine. Par exemple, beaucoup d'expositions, ça a été le cas sur les Maoris, sont réalisées par des autochtones, donc par des Maoris. Donc il y a tout un comportement qui a évolué au cours de ces années. Mais il y a effectivement aussi des demandes de restitution. Je pense que le point que visait monsieur ce sont surtout des pièces qui sont dans des collections privées, des problèmes de vente publique. Mais nous n'avons jamais eu pour l'instant de demande formelle en dehors de celle des têtes maoris.
Bon, faudrait pas oublier le premier point soulevé par l'auditeur. Chaque grand politique souhaite avoir sa pyramide. La voici celle de Jacques Chirac après le Centre Pompidou, après la bibliothèque Mitterrand. Catherine Clément.
Et alors où est le problème? Je veux dire que je ne comprends même pas.
C'est une façon aussi de perpétuer ce système pyramidal et présidentiel ou monarchique,
oui,
d'inspiration monarchique.
Et alors, je ne comprends pas très bien. Ça a donné la pyramide du Louvre, le musée d'Orsay, le musée du Quai Branly Jacques Chirac, puisqu'il va s'appeler comme ça. Je ne comprends pas où est le problème. Que le décisionnaire soit le président de la République ou un conseiller de région, c'est pas le problème, c'est pas la question. C'est le résultat qui compte. Donc je comprends pas cette question du tout.
Oui, à compter du moment où le monument en question n'est pas à la gloire du grand homme.
Il y a bien un masque qui a la tête de Jacques Chirac dans l'exposition, mais que je sache, Jean Nouvel n'a pas construit un musée à l'image de Jacques Chirac.
Oui.
Et la pyramide n'en ressemble pas à la tête de François Mitterrand.
Oui, ça aurait été embarrassant, effectivement. Oui. Claude Chirac, un mot là-dessus.
Non, je pense que c'est pas du tout des actes égocentriques. Je pense que le Centre Pompidou rayonne dans le monde entier, fait œuvre d'intérêt général et porte la France très haut. Donc c'est quand même chaque réalisation dont vous avez cité le nom sont des réalisations d'intérêt général et qui sont fort utiles.
Thomas, au Standard Inter, nous dit « La France défend la diversité culturelle à l'extérieur, mais très peu à l'intérieur. » Est-ce qu'il faudrait, d'une façon ou d'une autre, valoriser ce qui se fait dans nos régions, Catherine Clément ?
Je ne suis pas sûre que le gouvernement français ait finalement signé la charte des langues régionales. C'est l'un des points sensibles de ce dossier. Et je ne sais pas si ça a été signé. Mais c'est vrai qu'on a des problèmes avec les langues dans notre pays. Ça, il n'y a aucun doute. La reconnaissance des langues est une chose difficile. C'est le seul point qui me paraît très, très difficile du côté de la diversité.
Claude Chirac. Stéphane Martin.
Je crois que l'existence même du musée du Quai Branly, son sujet, c'est la diversité. C'est-à-dire à la fois de valoriser, par exemple, vis-à-vis des populations ici de l'immigration, leur racines, de leur montrer que les cultures de leurs parents ou de leurs grands-parents ne sont pas des cultures secondaires et ne sont pas simplement des cultures qui ont un intérêt parce qu'elles ont inspiré Picasso, mais qu'elles ont produit des grands chefs-d'œuvre. Il faut rappeler quand même que le Quai Branly s'est fait en deux phases et que la première phase, ça a été l'installation au sein du musée du Louvre d'un ensemble relativement réduit de grands chefs-d'œuvre qui sont là pour des visiteurs qui d'ailleurs souvent sont des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller voir des musées et qui en achetant un ticket pour voir la Vénus de Milo vont se voir confrontés à un chef-d'œuvre Dogon et qui donc vont repartir, j'espère, avec une vision différente justement de l'égalité entre les cultures et de la diversité entre les cultures. Les musées ne sont qu'un petit outil dans cet instrument. Il ne faut pas demander à un musée plus que ne peut le faire un gouvernement dans l'ensemble de ses politiques. Mais je pense que c'est un outil utile. Et Jacques Chirac, sans doute très influencé d'ailleurs par Georges Pompidou, qui était son maître, voyait dans le Quai Branly un musée et aussi un instrument social, en quelque sorte, pour former des citoyens.
Catherine Clément, l'intérêt des objets exposés dans l'exposition qu'on pourra découvrir à partir de demain, il est d'abord d'ordre esthétique ou d'abord d'ordre anthropologique ?
Eh bien, figurez-vous les deux ensemble. Et ça n'est pas contradictoire. Si vous voulez bien qu'on les mêle, en tout cas. Mmh. Pourquoi les différenciez-vous ?
Ça recommence.
On reprend le débat de tout à l'heure, effectivement.
Oui. Pourquoi est-ce qu'il vous vient la différenciation ?
Pourquoi
est-ce qu'il serait anthropologique, serait laid ? Et ce qui serait pas anthropologique serait beau.
Ce qui est anthropologique mérite une contextualisation, une explication qui
alors que le
choc esthétique peut venir naturellement sans avoir de connaissances sur l'origine des objets.
Vous croyez quand on a fait l'exposition sur l'art des Cyclades grecs il y a très 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 longtemps, vous croyez que ça apparaissait comme beau au premier venu ? Il fallait pas une explication, simplement c'était grec, donc la source de toute l'humanité. Occidentale, s'entend. Hein. Donc je pense que ça frappe, il y a des choses qui frappent, inégalement selon le regard qu'on y porte. Un tel sera sensible à un regard sur l'Afrique, un autre sur l'Asie, ou sur l'Océanie qui est si magnifique au musée du Quai Branly. Mais il n'y a pas de raison de priver les spectateurs d'un regard sur le beau, quel qu'il soit.
Il ne faut pas oublier non plus que Marcel Duchamp est passé par là avec un objet anthropologique très modeste aujourd'hui. Il apparaît très facilement beau.
Oui, mais il y a aussi un débat qui existe en Corse pour savoir si Marcel Duchamp c'est de l'art ou pas. Stéphane Martin, ça existe, je vous assure. Claude Chirac, vous vouliez dire un mot là, sur
cette question. En fait, je pensais à votre auditeur précédent. Je pensais aussi à la cité de l'immigration qui, d'ailleurs, en parfait accord et cohérence avec, à l'époque, le Premier ministre Lionel Jospin. Ça n'a rien à voir avec le musée, mais c'est un acte politique important, absolument. Je pense, très important.
Absolument. Oui.
Catherine Clément.
Oui, Jacques Chirac avait. Je me suis laissé dire que quand il allait aux États-Unis, il avait toujours dans sa poche un discours rédigé, pré-rédigé, pour engueuler les Américains sur les génocides des Amérindiens. Ça dit quelque chose quand même. Alors ses conseillers ont réussi à l'empêcher de le dire. Vous imaginez, au Congrès, ça aurait été bien ça quand même.
Oui.
Donc il était toujours du côté des peuples qui ont été colonisés, asservis, et toujours. Les Taïnos, c'est le cas. Il a fait une exposition sur un peuple disparu. C'était encore plus fort ça. Hein.
C'était.
Donc l'anthropologue politique qui aime l'art, je crois que c'était lui.
Catherine Clément, Claude Chirac, Stéphane Martin, vous restez avec nous. On va accueillir Augustin Trapenard dans un instant et retrouver Sophie Aram. Il est 9h-6. Bonjour Augustin Trapenard.
Salut Patrick.
Vous avez une question pour nos invités ?
Oui, bonjour à tous. C'est une critique qu'on a pu faire au musée du Quai Branly au début. Comment éviter cet écueil qu'est l'exotisme ? Vous savez, c'est cet exotisme qui change quand même la relation à l'autre, qui peut l'enfermer, qui peut l'aliéner. On a pu reprocher ça au musée du Quai Branly. Comment vous faites, Stéphane ?
C'est vrai, j'espère qu'on ne l'a pas reproché parce qu'on y a beaucoup pensé. D'abord par le bâtiment, par l'architecture, par l'intervention de Jean Nouvel et une architecture très très moderne. Ensuite, en ayant effectivement un discours moderne vis-à-vis de ces œuvres. La moitié des expositions du Quai Branly sont des expositions qui, d'une manière ou d'une autre, traitent du versant contemporain de ces cultures et qui, justement, essayent. Pour moi, la définition de l'exotisme, c'est d'abord une forme de mépris, ensuite une sorte de nostalgie vis-à-vis de quelque chose qui est condamné à disparaître. Regardez, c'est amusant, c'est touchant, parce que bientôt, ça n'existera plus. Tout le discours du Quai Branly est un discours tourné vers l'avenir, c'est-à-dire on montre des gens qui ne cessent de se transformer, qui ne cessent de se réinventer et d'imaginer le futur. Donc je crois vraiment qu'on est très loin d'un discours exotique.
Boomerang, tout à l'heure, Augustin, dans 10 minutes.
Je reçois le grand philosophe et historien de l'art, Georges Didier Huberman, qui poursuit, vous savez, sa réflexion sur la puissance et le sens des images qui forment notre réalité, notre imaginaire, peuples en larmes, peuples en armes. C'est le titre de cet essai passionnant qui réhabilite, célèbre l'émotion comme force d'émancipation. Georges Didier Huberman est dans Boomerang, évidemment.
À tout à l'heure, Augustin.